Bonjour, nous sommes le groupe Balado Hashtag Avenir et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir la référente pays d'art et d'histoire, Valérie de l'Office du Tourisme, qui a la gentillesse de nous raconter les moments forts de Gabriel de Montgomery.
Bonjour. Pour vous présenter la famille de Montgomery est avant tout une famille normande. Qui se sont installés sur les terres qui plus tard deviendront la Normandie, ils vont fonder deux villages, Sainte-Foy de Montgomery et Saint-Germain de Montgomery dans le Calvados, à la limite de l'Orne. Les Montgomery, au départ, refusent Guillaume comme duc de Normandie. Plus tard, Roger II de Montgomery devient un fidèle de Guillaume, le conquérant, et combattra, comme beaucoup de seigneurs normands, auprès de Guillaume lorsqu'en 1066, Guillaume va conquérir l'Angleterre suite à la fameuse bataille d'Hastings. Pour remercier tous ces seigneurs normands de l'avoir aidé à devenir roi d'Angleterre, en fait, il va donner de nombreuses terres à tous ces seigneurs normands. C'est le cas des Montgomery. Plus tard, la famille de Montgomery s'installera en Écosse, et c'est un Écossais qui reviendra en 1422 en France et s'engage comme archer dans l'armée de Charles VII. Plus tard, Jacques Ier de Montgomery, qui est capitaine de la garde écossaise du roi, c'est-à-dire chef des gardes du corps du roi, va désirer retrouver ses terres en Normandie. Et c'est ainsi qu'il épouse en 1521 la fille du seigneur de Ducé, Claude de la Boissière, et devient seigneur d'Azay-le-Rideau. Ainsi, les Montgomery ont retrouvé leurs terres en Normandie. Son fils, Gabriel Ier de Montgomery, va être élevé à la cour, puisque Jacques officie à la cour en tant que garde du corps du roi. Il va être élevé avec un futur enfant royal, le futur Henri II. Compagnon de jeu, il deviendra par la suite compagnon d'armes et capitaine de la garde écossaise lorsque son père, Jacques, lui cédera sa charge à la retraite. Mais en 1559, Gabriel Ier, capitaine de la garde écossaise d'Henri II, va être confronté à un terrible duel. En 1559, les choses vont changer. Avec Montgomery, il va arriver un terrible drame. Le 30 juin 1559, un tournoi est organisé à Paris pour ratifier un traité de paix entre l'Espagne et la France. Henri II, le roi, marie sa fille Isabelle avec le roi d'Espagne et sa sœur au duc de Savoie, concluant ainsi le traité entre l'Espagne et la France. Au cours de ces festivités, Henri II aimait beaucoup les tournois et va vouloir se mesurer à tous ses vaillants capitaines. À la fin de la journée, Catherine de Médicis demande au roi d'arrêter. Celui-ci refuse puisqu'il lui manque une joute. Il veut jouter avec Gabriel Ier de Montgomery, le capitaine de sa garde écossaise. Les deux cavaliers entrent en lice et au moment de se rencontrer, Montgomery brise sa lance sur l'armure du roi. Celui-ci va s'accrocher à son cheval mais ne tombe pas. Il revient vers Montgomery et demande à Montgomery une dernière joute. Montgomery, au départ, refuse et lui dit qu'il avait gagné. Celui-ci insiste. Catherine de Médicis fait dire au roi que c'était la dernière joute, comme elle lui avait promis. Et le roi insiste pour continuer et avoir la dernière joute avec Montgomery. Montgomery n'a pas eu le temps de changer sa lance et le roi commence déjà à entrer en lice. Il fait demi-tour et au moment de se rencontrer, un éclat de la lance pénètre dans le casque. Le roi tombe de cheval. Montgomery se précipite vers lui et lui demande qu'on lui coupe les mains pour avoir osé faire tomber le roi. Juste avant de s'évanouir, le roi dit à Montgomery « Mais ce n'est pas de votre faute, vous avez obéi à votre roi. » On emmène le roi au palais. Malgré les soins de son médecin Ambroise Paré, le roi va mourir une semaine après. La famille de Montgomery est désespérée. Suite à ce drame, Gabriel de Montgomery ne va pas rester à Ducé. Il va emporter femmes, enfants et meubles et s'exile à la cour d'Élisabeth Ière d'Angleterre. Il reviendra 2 ans plus tard, en 1562, en France, où il découvre un territoire déchiré entre protestants et catholiques. Gabriel Ier de Montgomery va suivre ses amis convertis au protestantisme et se convertit lui-même. Il installe un prêche dans l'enceinte de son château. Les nouvelles de celui qui a tué le roi Henri II et qui était de retour en France se propagent dans toute la France. Condé, le chef du protestantisme, demande à Montgomery de combattre à ses côtés. Celui-ci accepte et descendra jusque dans le sud de la France défendre les territoires de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, elle-même protestante. En 1570, Gabriel de Montgomery revient sur ses terres. Mais en 1572, un mariage va changer la face de l'histoire. Pour stopper les guerres entre protestants et catholiques, Catherine de Médicis s'est entendue avec Jeanne d'Albret, reine de Navarre, elle-même protestante, sur le mariage de leurs enfants pour ratifier la paix entre les deux parties. Marguerite de Valois, la fille de Catherine de Médicis, épousera le fils de Jeanne d'Albret, Henri de Navarre, lui-même protestant, sous condition que Marguerite de Valois reste catholique. Donc, des noces sont organisées le 24 août 1572 à Paris. Gabriel de Montgomery est convié avec de nombreux seigneurs protestants pour ce mariage. Celui-ci ne va pas vouloir rester sous les yeux de Catherine de Médicis et va préférer loger dans le quartier Saint-Germain avec d'autres nombreux seigneurs protestants. Quelques jours après le mariage, l'amiral de Coligny, chef du parti protestant, est blessé en plein Paris. Tous les seigneurs protestants sont en colère face à cet attentat contre leur chef. Catherine de Médicis prend peur de la révolte des protestants. Poussés par le duc de Guise, ils vont influencer le roi Charles IX pour supprimer tous ces protestants qui sont à Paris avant que ce soit eux qui prennent les armes contre le roi de France. Sur les ordres du roi et de la reine, le duc de Guise organise ce que l'on va appeler le massacre de la Saint-Barthélemy. Nous sommes le 24 août 1572. Toutes les portes de Paris sont fermées à clé, les bateaux sont amarrés côté Louvre et sont enchaînés. Dans la nuit, le duc de Guise part exécuter l'amiral de Coligny. Au signal du tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois, les gardes du Louvre réveillent tous les protestants qui dormaient dans le Louvre, les amènent dans la cour et les exécutent. De Guise, lui, part à l'hôtel de ville chercher les clés de la porte de Bussy ouvrant sur le quartier Saint-Germain pour s'occuper personnellement de l'exécution de Gabriel Ier de Montgomery. Arrivé à la porte de Bussy, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de clé. Le temps de revenir, traverser la Seine et revenir à l'hôtel de ville, reprendre la nouvelle clé, un homme qui avait entendu et avait vu ce qui s'était passé au Louvre saute dans la Seine, traverse la Seine et part à la rencontre dans le quartier Saint-Germain de tous les protestants qui dormaient, les réveille et explique ce qui s'est passé. Tous les protestants qui logeaient dans le quartier Saint-Germain sont alertés, sautent sur leurs chevaux et se retrouvent au Pré-au-Clair, une sorte de terrain vague jouxtant le Louvre. Ils se posent des questions, ne comprennent pas ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, De Guise ouvre la porte de Bussy et commence à tirer sur le groupe. Une course-poursuite s'ensuit jusqu'à Montfort-l'Amaury. De là, De Guise est contraint de faire demi-tour et avertir Catherine de Médicis que Gabriel Ier de Montgomery lui a échappé. Une soixantaine de protestants ont pu ainsi échapper au massacre de la Saint-Barthélemy. Le groupe était en partie du Poitou et de Normandie. Montgomery revient chez lui à Ducé, emporte femmes, enfants et meubles et regagne au plus vite l'Angleterre. Et il va y rester quelque temps. En Angleterre, Montgomery va échapper à quelques attentats et il va revenir en France 2 ans plus tard, en 1574. Il débarque au Havre de l'Inverville, accueilli par de nombreux seigneurs protestants voisins. Il va occuper de nombreuses places en Normandie, notamment Carentan et Saint-Lô. Catherine de Médicis apprend que Gabriel de Montgomery est de retour en France et demande à Matignon de le capturer. Celui-ci va réussir à encercler Montgomery, alors à Domfront, du 9 mai au 25 mai. Montgomery tient tête aux assauts des catholiques et va finir avec une poignée d'hommes contre 10 000 hommes et une artillerie. Refusant d'abandonner ses hommes, Matignon lui propose la vie sauve à ces derniers. Montgomery accepte et il est ramené à Paris pour être jugé et condamné. Catherine de Médicis ne peut pas le condamner pour avoir tué accidentellement le roi Henri II, puisque celui-ci a bien dit devant témoins que Montgomery n'y était pour rien. Elle ne pouvait pas non plus le condamner pour avoir été protestant, puisqu'elle sait pertinemment que le massacre de la Saint-Barthélemy a été une terrible erreur. Elle va le faire condamner pour avoir arboré pavillon étranger, ce qui était un crime de lèse-majesté. Montgomery est mené à l'échafaud et il va dire un grand discours à la foule de Parisiens qui étaient présents pour voir l'exécution de celui qui avait tué le roi Henri II. C'est toujours ce motif que les gens retenaient à cette époque-là. Au cours de son discours, il va dire plusieurs choses. La première chose sera sur son geste malheureux envers le roi. Il ne s'est jamais pardonné de ce fameux coup de lance. Ensuite, les motifs pour lesquels il a été condamné sont que pur prétexte pour lui. Et s'il meurt, c'est pour sa religion. Mais par contre, il est heureux de mourir dans cette foi, puisqu'il ne renie en rien cette dernière. La dernière chose, par cet arrêt, ses enfants n'ont plus leur titre de noblesse. Ils ont été déclarés roturiers. Mais s'ils en sont nobles, eh bien, ils s'en relèveront. Montgomery refuse qu'on lui bande les yeux, monte sur l'échafaud et il est décapité. Beaucoup de témoins ont rapporté ces dernières paroles. Ainsi se termine la vie de ce célèbre capitaine de la garde écossaise que Catherine de Médicis a tout fait pour faire oublier par la suite.
Merci à Valérie pour son intervention. Pour en savoir plus, venez visiter le château de Ducé.